journal, Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Audrey Mongei condamnée hier soir à 30 ans de réclusion, 5 ans après l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. Les détails dans une minute.
Pour la première fois, Joe Biden infléchit sa politique de soutien inconditionnel à Israël. Le président des États-Unis accentue la pression sur Benjamin Netanyahou.
Et vous en parliez Guillaume, journée spéciale élections européennes. Les pays baltes regardent de près la situation en Ukraine et veulent se protéger de la Russie. 5 semaines d'audience et 11 heures de délibéré plus tard. La Cour d'assises spéciale de Paris a rendu hier son verdict dans le procès de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. Audrey Mongei a été condamnée à 30 ans de réclusion, dont une peine de sûreté des deux tiers pour avoir aidé l'assaillant à se procurer l'arme avec laquelle ce dernier a tué 5 personnes le 11 décembre 2018. Sherif Shekat a été abattu ensuite 2 jours plus tard par les policiers. Une peine conforme aux réquisitions du parquet, même si la Cour n'a pas retenu la complicité terroriste. Pour les victimes, c'est une page qui se tourne, Olivier Vogel.
Audrey Mongei, debout dans son box, chemise blanche et bras ballants, encaisse sans broncher. Les 3 autres accusés ressortiront libres. Mais au-delà des peines, pour les parties civiles, après 5 semaines d'audience, c'est le soulagement d'une page qui se tourne avec le sentiment que la justice a été rendue. Sagar Najband a perdu son mari, réfugié afghan, abattu le soir de l'attentat.
Il y a beaucoup d'émotions, vraiment. Mais maintenant, je suis content et je peux continuer ma vie parce que j'attends cette journée trop. C'était dur pour nous, vraiment, cette période, c'était vraiment trop dur pour moi, pour les enfants. C'était pas facile, on est sans dire pas bien, mais maintenant ça va, on est content.
Même sentiment pour Mostafa Salan, le chauffeur de taxi pris en otage par le terroriste le soir de l'attentat, même si la perspective d'un nouveau procès le tourmente.
On est soulagé et puis maintenant, on va pouvoir essayer de tourner une page. Mais vous savez bien qu'après une décision de cette nature, sans doute il va y avoir un appel. Et on doit se préparer aussi de nouveau à replonger dans cette affaire-là. Cette plaie qui est ouverte, cette blessure qui est ouverte depuis 5 ans, elle a tendance à se refermer, mais s'ouvrir en même temps. Voilà. Mais on sera là. S'il y a un appel, on sera là.
Une perspective qui se profile, car les avocats du principal accusé, sonnés par le verdict hier soir, se sont refusés à tout commentaire au micro, mais ont sous-entendu que leur client ferait certainement appel de sa condamnation.
Et les 2 autres accusés étaient jugés pour avoir joué le rôle d'intermédiaire dans la fourniture d'armes. Ils ont écopé de peines de prison, mais couvertes par leur détention préventive. Un 3e a été acquitté. Le groupe d'électroménager SEB se dit rassuré. Certes, les députés ont approuvé en première lecture hier la proposition de loi écologiste visant à restreindre la fabrication et la vente de produits contenant des PFAS, ces polluants éternels. Mais après une forte pression des industriels cette semaine, le texte voté exclut les ustensiles de cuisine. L'Assemblée a aussi approuvé une autre proposition écologiste en faveur des prix planchers pour les agriculteurs, en dépit de l'opposition de la majorité et du gouvernement. Il avait déjà reconnu en 2021 les responsabilités de la France. Emmanuel Macron ajoute désormais que Paris aurait pu arrêter, selon lui, les massacres au Rwanda, mais n'en a pas eu la volonté. Un pas supplémentaire effectué par le président à l'approche des commémorations du 30e anniversaire du génocide des Tutsis. Il sera représenté dimanche au Rwanda par son ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné.
6h33 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. La Maison-Blanche reconnaît un mécontentement croissant vis-à-vis d'Israël, presque 6 mois après le début de la guerre entre l'État hébreu et le Hamas à Gaza.
Joe Biden et Benjamin Netanyahou se sont parlé au téléphone hier. Joe Biden, indigné par la frappe israélienne qui a tué 7 humanitaires d'une ONG américaine, c'était lundi dans l'enclave palestinienne. Le président des États-Unis a pour la première fois évoqué la possibilité de conditionner le soutien américain à Israël. Il veut des mesures tangibles pour protéger les civils. À Washington, Sébastien Paour.
Les mots sont pesés, mais le ton a changé. Pour la première fois, et sans dire clairement ce qu'ils attendent, les États-Unis posent des conditions à leur soutien à Israël. John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Ce que nous attendons et espérons voir ici dans les heures et les jours à venir, ce sont les mesures concrètes, tangibles qu'ils prennent. Et si nous ne voyons pas de changement de leur côté, ils devront être faits d'une autre. Car le conflit a changé en 6 mois.
En octobre 7, there wasn't near famine in Gaza.
Le 7 octobre, Gaza n'était pas au bord de la famine. Il n'y avait pas eu de diminution du nombre de camions entrant à Gaza. Il n'y avait pas des milliers d'innocents tués. Le message du président est le suivant. Nous devons voir des changements dans la manière dont Israël fait face à la menace. C'est ce dont peuvent discuter deux bons amis et alliés. Pour autant, le soutien américain n'a pas changé. Nous soutenons et nous continuerons à soutenir non seulement philosophiquement, mais concrètement, le droit d'Israël à se défendre. Notre soutien à l'autodéfense d'Israël reste inébranlable. En décembre, les États-Unis ont encore livré à Israël près de 14 000 obus de 120 mm et 57 000 de 155 mm.
Benjamin Netanyahu est-il vraiment menacé politiquement? On en parle après ce journal dans les enjeux internationaux. Journée spéciale aujourd'hui sur France Culture consacrée aux pays baltes à 2 mois des élections européennes. La Lituanie, la Lettonie et l'Estonie partagent environ 800 kilomètres de frontière avec le voisin russe. En janvier, ils ont annoncé la construction d'une ligne de défense. Mais avant cela, il faut armer l'Ukraine, plaident les trois pays, car c'est toute la sécurité de l'Europe qui est suspendue à l'issue de cette guerre qui dure depuis 2 ans. En cas de victoire, Vladimir Poutine pourrait être tenté de tester la solidarité des pays de l'OTAN, Virginie Pironon.
Si vous voulez la paix, préparez la guerre. Les pays baltes n'ont pas attendu le 24 février 2022 pour commencer à s'armer face à leurs puissants voisins. Le pays le plus au nord, l'Estonie, consacre depuis 10 ans, depuis l'invasion de la Crimée, 2% de son PIB pour sa défense et vient même d'atteindre cette année les 3,2%. Tous les partenaires devraient suivre cet exemple, c'est ce qu'affirme avec force le ministre de la Défense estonien. Anno Pevkur vient de lancer sa propre initiative pour l'achat d'armes à l'Ukraine en dehors de l'Union européenne, ne manque désormais que le financement.
Mais c'est au pays de décider. Dès le début de la guerre, l'Estonie a formulé une stratégie de victoire pour l'Ukraine. Et nous affirmons que si chaque pays du groupe de Rammstein pouvait investir 0,25% de leur PIB pour aider l'Ukraine, alors nous aurions assez de financement pour tout le soutien militaire à Kiev. 0,25%, c'est ce que l'Estonie a déjà fait cette année.
Le ministre de la Défense observe certes en ce moment une inflation au sein des pays européens, mais il faut aller plus vite, dit-il.
Le temps nous est compté et il est très important que, comme je l'ai entendu dernièrement, de nombreux pays contribuent davantage. J'étais très heureux d'entendre que la France est également prête à faire plus. C'est un très bon message, mais maintenant, nous avons aussi besoin d'action. Nous avons besoin de décisions. Il ne s'agit pas seulement de mots.
Si des mesures plus radicales ne sont pas prises, poursuit Anno Pevkur, l'OTAN pourrait faire face, la prochaine décennie, à une armée russe renforcée qui poserait une sérieuse menace à toute l'Europe.
Virginie Pironon. Météo France prévoit un temps pluvieux ce matin dans le nord-ouest, un ciel voilé ailleurs. 18 degrés attendus cet après-midi à Lille et Paris, 22 à Belfort, Lyon et Marseille, 27 degrés à Bordeaux, jusqu'à 28 à Tarbes.